était une fois. Jean-Paul Berlocher.
Le 8 mars 1961, Henri Quinson voit le jour à Neuilly-sur-Seine. Franco-américain par ses parents, il partage son enfance entre New York, Bruxelles et Paris. Ancien de l'école Saint-Jean de Passy, diplômé en sciences économiques de l'université Panthéon-Sorbonne et Sciences Po Paris, il devient trader à la salle des marchés de ce qui deviendra la banque Indo-Suez, un poste qui l'amènera à suivre une formation à Wall Street. Golden Boy, multimillionnaire, il est approché par la banque d'affaires américaine Merrill Lynch, dont il refuse l'offre pour rejoindre le monastère de Tamier en Savoie en 1989, avant d'étudier la théologie à la faculté catholique de Strasbourg. En 1995, il emménage dans les quartiers nord à Marseille, où il fonde 2 ans plus tard, avec Karim Debrouquer, la fraternité Saint-Paul, une petite communauté de prière et de travail en cité HLM de la ville. Henri Quinson nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez un parcours qu'on peut dire que atypique, et vous avez donc changé complètement de cap. Ce changement de cap, est-ce que aujourd'hui, par exemple, vous avez gardé des liens avec ceux qui faisaient partie de votre milieu, les financiers, ou est-ce que vous avez complètement coupé les ponts avec ceux qui partageaient vos préoccupations et votre profession?
Non, mais dans un premier temps, effectivement, quand j'ai rejoint le monastère de Tamier, comme c'est d'usage, pendant un an, les contacts étaient minimums. Mais c'est vrai que mon départ des marchés financiers a fait se poser pas mal de questions à certaines personnes, et donc j'ai gardé des liens avec certaines personnes du métier. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, compte tenu de mes prises de parole publiques et de ma trajectoire, il y a un certain nombre de liens qui sont renoués, soit avec des gens du métier, soit aussi avec que ce soit le Parlement européen ou même la direction du FMI, parce que ça les intéresse aussi d'avoir un point de vue éthique sur la crise actuelle et que les gens se posent beaucoup de questions. Donc c'est toujours impossible de jeter son passé aux orties, et c'est tant mieux parce que c'est une réalité importante du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Vous étiez dans les milieux financiers. Est-ce que vous avez pressenti ce qui allait se passer un peu sur le marché et dans le système financier? Vous avez pressenti cette crise qui est tout de même une crise de profondeur?
Oui, alors il y a une dimension de la crise qui était tout à fait prévisible, et je ne suis pas le seul à l'avoir prévu, mais c'est lié à l'innovation technique qu'on a appelée les subprimes, donc le marché hypothécaire américain, la possibilité pour des gens de faibles revenus d'acheter des maisons en empruntant et en gageant leur maison dans ce système d'emprunt. À mes yeux, ce produit était par nature spéculatif, ne fonctionne que lorsqu'il y a une hausse des marchés immobiliers, et donc quand le marché s'est retourné, il s'est passé ce qui devait se passer, et donc on a eu une crise avec des effets en cascade, parce que ces créances dites toxiques aujourd'hui, à l'époque on n'utilisait pas cette expression et c'est bien dommage, eh bien ces créances toxiques sont entrées dans le système via la titrisation, qui est un phénomène en fait assez simple qui consiste à passer la patate chaude à son voisin. Et donc les grandes banques d'affaires américaines, que je connais bien, ont fait une belle opération, les gens pauvres une mauvaise opération, et les classes moyennes devront payer des gars. Ça montre que quand une société, y compris ses dirigeants politiques, puisque l'administration Clinton et Bush est là totalement en cause, quand une société tout entière se met à spéculer, il faut savoir que les bulles sont par définition vides, et que donc il est important de revenir aux éléments fondamentaux d'une économie, que la finance au service de l'économie, l'économie au service de l'homme. Et donc c'est le moment de dire que l'éthique c'est un réalisme, et que tous ceux qui nous ont vanté le cynisme et la cupidité comme une vertu morale, ça conduit au mur.
Henri Quinson, Jean-Louis Baudou, et on est ravis de vous avoir dans Il était une fois. Vous venez de nous dire ce que vous a inspiré la crise. Vous êtes également inspiré, vous avez une réflexion sur les tourments de vos ex-coreligionnaires.
Ben, c'est pas des cours religionnaires, même s'il est vrai que pour certains, l'argent devient un dieu et c'est tout le problème. L'argent est un bon serviteur, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut surtout garder cet instrument qui par nature facilite notre vie en commun, puisque c'est pour développer les échanges et aussi pouvoir prêter quand on a trop d'argent, emprunter quand on n'en a pas assez. Mais les gens des milieux de la finance, je crois que c'est important qu'ils puissent justement réfléchir avec d'autres. Il y a des personnes qui sont toujours dans le métier, d'autres qui sont en dehors du métier mais qui ont pratiqué, réfléchir à la finalité de toutes les techniques qui sont à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'être contre les innovations financières, mais il faut pratiquer le discernement. Le discernement, ça fait partie de la grande tradition juive et chrétienne, et donc c'est important de simplement remettre les choses à leur place, signifier que l'allocation des ressources face à la rareté qui est la réalité du monde dans lequel nous vivons, ça se fait au niveau collectif, ça se fait aujourd'hui au niveau international, et je pense que l'Église aujourd'hui, l'Église catholique et les Églises chrétiennes sont bien placées du fait de leur spiritualité universaliste, de rappeler cette réalité et de faire en sorte que le développement économique soit au service de tous et en particulier des plus démunis. Donc c'est très très important de garder les liens parce qu'il ne faut surtout pas mépriser les réalités matérielles, mais au contraire essayer de les évangéliser.
Alors vous avez opéré un changement de cap tout de même très radical. Comment ça s'est passé? Vous avez vécu un chemin de Damas, un buisson ardent?
Un peu un chemin de Damas, je dois dire. Je me méfie toujours des espèces d'éblouissements mystiques sans lendemain, mais là il se trouve qu'ils ont eu des lendemains. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, j'étais moi le bon petit consommateur occidental ne manquant de rien. En plus, effectivement, j'avais une famille unie, donc tout allait bien pour moi. J'avais jamais raté une année scolaire, j'ai fait des belles études, comme on dit. Et pourtant, à 20 ans, il me manquait à mes yeux quelque chose, puisque je me sentais frustré de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, et c'est la découverte de la prière comme jeune adulte qui m'a apporté ce que je recherchais, une plénitude, et donc cette frustration a été remplacée au contraire par un sentiment de plénitude, et je me suis rendu compte que ça portait des fruits pas simplement pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entouraient. C'est comme ça que j'ai redécouvert le Christ. J'étais chrétien, mais en fait, pour moi, Dieu était surtout le grand barbu qui avait créé le monde et qui nous attendait après la mort. Et la question que je me posais, c'est: y a-t-il une vie avant la mort? C'est une expression de la poétesse américaine Emily Dickinson. Y a-t-il une vie avant la mort? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mener une vie savoureuse qui a du sens? Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été mon chemin de Damas, mon éblouissement. Mais après, il a fallu plusieurs années, 7 ans en tout, pour accoucher d'une décision qui consistait à quitter les marchés financiers pour une vie monastique d'abord en Savoie et puis plus tard à Marseille, puisqu'en 1989, j'ai eu une vision, faite matériellement très simple, mais où je me voyais à Marseille, une ville où je n'étais jamais allé, où je connaissais personne, entouré d'enfants venus visiblement du sud de la Méditerranée et que j'aidais à réussir à l'école. Et en fait, il s'est avéré qu'au terme de ce processus, je me suis effectivement retrouvé à Marseille, où je vis depuis maintenant plus de 12 ans.
Alors vous avez été un trader anonyme, et vous voilà un moine célèbre. C'est un peu paradoxal. C'est tout à fait une autre forme, mais peut-être aussi d'entrave à votre quête de sens, non? Est-ce que vous portez cette célébrité ou cette espèce d'éclosion médiatique comme une chance ou comme un fardeau?
D'abord, je relativiserais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la célébrité se mesure à la possibilité de prendre le métro à Paris sans être reconnu, et je peux encore le faire très tranquillement.
Mais ça ne va pas durer.
Il est vrai que quelques personnes me serrent la main dans le train ou dans les aéroports, mais enfin, le phénomène est limité et passager, dans la mesure où si on n'entretient pas cette présence, surtout à la télévision, puisque c'est comme ça que les gens vous reconnaissent. Moi, ça fait 3 mois, par exemple, que je n'ai pas fait de télévision. Donc, je suis capable de refuser un certain nombre d'émissions. Donc, il y a une certaine liberté par rapport à ça. Ceci étant, Jésus ne s'adressait pas simplement à ses co-religionnaires dans les synagogues, mais il a accepté, après 30 ans de silence, de s'adresser aux foules. Et aujourd'hui, les foules, elles regardent la télévision. Les Français regardent, paraît-il, 3 heures de télévision par jour. Donc le moyen de s'adresser au plus grand nombre, c'est celui-là. Alors il faut le faire avec discernement et puis voir après les fruits que ça peut produire, si c'est dévié de l'objectif initial ou pas. Donc c'est tout un travail, mais je crois que c'est important aujourd'hui par exemple, quand on regarde les bibliothèques comme la FNAC où beaucoup de gens vont aller acheter des livres, bah, qui n'est pas que simplement des livres sur le bouddhisme, même si c'est très bien, ni sur la sophrologie, mais qui est aussi quelques auteurs chrétiens qui puissent s'adresser à leurs contemporains en des termes intelligibles, et pour un témoignage assez simple, mais qui rappelle quelques réalités spirituelles qui sont ceux de la tradition et de l'Église. Donc, voilà, à chaque moment de la vie, on a des responsabilités. Moi, j'ai 48 ans, je me suis tue pendant 20 ans, on me demande de parler, j'essaye de le faire avec discernement, et je le ferai pas forcément éternellement, mais c'est effectivement un moment important, dans cette crise en particulier, où on a un peu l'oreille des gens qui se posent pas mal de questions.
Il vous reste du temps pour vivre vraiment ce que vous avez à vivre, là où vous êtes vraiment trempé dans le bain humain, où vous êtes et qui requiert tout de même, j'imagine, une présence assez intense. Vos compagnons ou les gens à qui vous vous adressez, avec qui vous vivez, ne vous font pas un peu le reproche d'être aux abonnés absents plus d'une fois ?
Alors ça, c'est vraiment une entreprise communautaire, c'est-à-dire que le choix de prendre la parole, c'est un choix communautaire, donc le jour où la communauté ne sera pas d'accord, à ce moment-là, on arrêterait ce type de communication, donc c'est un choix communautaire. Pour ce qui est des voisins, en fait, ils sont très très fiers qu'on parle du voisinage en termes positifs et constructifs, parce qu'il faut savoir que nos cités sont tellement mal considérées et maltraitées dans les grands médias commerciaux, qu'il est bon de montrer aussi qu'il y a des choses qui se vivent ici, qui sont celles du plus grand nombre, mais dont on ne parle jamais, donc ça, ils en sont très fiers. Maintenant, c'est aussi une période particulière, ça c'est après 12 ans de travail totalement à l'abri des caméras. Les caméras qui ne sont venues dans notre quartier, on les a acceptées que 4 fois en 12 ans, donc il ne faut pas non plus exagérer la médiatisation. La presse écrite c'est autre chose, les radios, en particulier les radios chrétiennes c'est autre chose, ça fait partie de l'Église, la vie de l'Église normale à mes yeux, puisque c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui. Mais le souci effectivement c'est un juste équilibre, mais il faut savoir qu'il y a aussi des étapes et que, bon, par exemple, notre cité est en train d'être réhabilitée. On pourrait même se poser la question de se dire si les communautés doivent rester dans le même lieu éternellement. Moi, je pense que c'est très important d'écouter ce que nous dit l'esprit et à certains moments, il faut aussi accepter de sortir de la routine. Et je pense que ça peut produire des fruits très importants. En particulier, nous, ça nous a permis de renforcer notre communauté puisque, par exemple, Jean-Paul, qui était en Belgique, n'en a entendu parler que par un article dans la revue Panorama, et ça permet aussi de faire venir des bénévoles, puisqu'on a une soixantaine de bénévoles qui travaillent avec nous. Donc ça aussi, c'est très important pour nos voisins.
Henri Quinson, j'aimerais vous demander, on imagine souvent qu'un moine est plutôt retiré du monde, et là on vous retrouve au cœur des cités. C'est réellement la place que vous vouliez tenir dans le monde ?
Oui, je crois que c'est important de comprendre que la vocation monastique est fondée sur deux choses. Concrètement, je ne parle pas de la vocation monastique qu'on trouve dans les romans, mais la vraie réalité monastique, c'est deux choses. Moine, ça vient du grec monos, c'est en fait des communautés de célibataires. Monos qui veut dire un, donc des communautés de célibataires, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on fait référence dans la tradition monastique au père du désert, donc il se réfère à un lieu. C'est pas des vocations qui se définissent par les tâches. C'est donc pas les pères hospitaliers ou les pères enseignants, mais les pères du désert. Alors quels sont les lieux aujourd'hui qui ont des résonances évangéliques ? Eh bien, ça peut être toujours les déserts, ça peut être les régions rurales, souvent désertées avec aussi des populations pauvres. Ça peut aussi être le cœur des villes, comme avec les fraternités monastiques de Jérusalem, par exemple. Mais c'est important aussi qu'il y ait des communautés de prière, des communautés très simples, hein, de prière, de travail et d'accueil, puisque c'est ça le style de vie monastique, qui soit dans les périphéries urbaines, où il y a beaucoup de populations pauvres et étrangères à l'Église. Donc ça, c'est un mouvement qu'on voit se dessiner un peu partout, en particulier aux États-Unis. Et à chaque génération, l'Église est amenée à redéfinir un certain nombre de ces communautés, de ces traditions. Il y a eu des réformes dans la vie monastique assez importantes, par exemple au XIIe siècle avec les cisterciens, et spécialement la figure de Saint Bernard, qui ne pouvait pas faire de télévision évidemment à l'époque, mais qui allait jusqu'à conseiller les papes, ce qui ne nous est pas encore arrivé.
Alors, si vous voulez bien, Henri Quinson, nous allons marquer une petite pause. On va écouter Gérard Lenormand, Au-delà des rêves, et on lui dit, tu es fou, on a dû vous dire ça l'une ou l'autre fois, on écoute Gérard Lenormand.
Je me suis enfui de la chambre où l'on me gardait enfermé. je marche seul dans la campagne que je me suis imaginée. Les arbres sont des cathédrales, les femmes fleurs sont à mes pieds. Mais il ne faut pas que j'en parle, mes mains recommencent à trembler.
Tu es fou.
J'ai des orages dans ma tête.
Tu es fou.
Je vis sur une autre planète.
Tu es fou.
J'ai peur des hommes et des sirènes. Je voyage au-delà des rêves. J'ai froid dans ma veste de laine. Le vent du nord souffle sur moi. Je fais craquer une allumette. La flamme brûle entre mes doigts. Et la nuit devient toute blanche. Les oiseaux se mettent à parler. Mais il ne faut pas que j'y pense, mes yeux recommencent à briller.
Tu es fou.
J'ai des orages dans ma tête.
Tu es fou.
Je vis sur une autre planète.
Tu es fou.
J'ai peur des hommes et des sirènes.
Tu es fou.
Je voyage au-delà des rêves. Je me suis caché dans les herbes. Je ne voulais pas lui faire peur. Sa robe bleue s'est découverte et j'ai senti battre mon cœur. Le ciel s'est jeté dans l'espace. La pluie est devenue sucrée. Donc que j'y fasse, ma tête s'est mise à craquer.
Tu es fou.
Oh non, j'ai des orages dans ma tête.
Tu es fou.
Je vis sur une autre planète.
Tu es fou.
J'ai peur des hommes et des sirènes. Je voyage au-delà des rêves. Oh non, 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 j'ai des orages dans ma tête.
Tu es fou.
Je vis sur une autre planète.
Tu es fou.
J'ai peur des hommes et des sirènes.
Tu es fou.
Je voyage au-delà des rêves, des rêves. Oh non, 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 non. Non. J'ai peur des hommes et des sirènes. Je voyage
C'était une fois. Jean-Paul Berlocher.
C'était Au-delà des rêves, Gérard Lenormand. Nous sommes avec Henri Quinson, moine des cités, après avoir été un golden boy dans les années 80. Le voilà maintenant au cœur des cités pour vivre sa foi et son retournement spirituel conséquent et non sans conséquences. Et alors, Henri Quinson, vous êtes au cœur de la cité, des quartiers nord de Marseille. C'est pas, vous n'avez pas choisi le plus facile.
Oui, c'était en tout cas l'idée que je m'en faisais au départ, pas le plus facile. En même temps, il faut reconnaître que dans toutes ces petites parcelles d'humanité, notre cité a été construite en 62, moi je suis né en 61, donc ça fait partie des parcelles d'humanité qui sont confiées à ma génération. C'est aussi des parcelles d'humanité où il se vit une fraternité, de la joie. Et par exemple, moi qui habitais dans les beaux quartiers, on m'a jamais offert des plats tout chauds le soir quand je rentre du travail, mais c'est la pratique ici. Et donc, on a aussi des bonnes surprises. Donc, c'est pas nécessairement des lieux non plus forcément négatifs. même si effectivement il y a tous les problèmes dont on parle souvent, les difficultés scolaires, certains éléments de délinquance, la drogue, même si la drogue se trouve dans tous les quartiers à vrai dire, mais les réalités aussi, c'est des familles avec beaucoup d'enfants, donc un privilège énorme de pouvoir travailler avec des jeunes. Et puis des familles étrangères très dynamiques qui partent de zéro et qui arrivent dans ces cités parce qu'elles ne peuvent pas habiter ailleurs, mais avec beaucoup de jeunes qui finissent, bon, ça fait 12 ans qu'on est là, donc maintenant on les voit même arriver dans des niveaux d'études supérieures très 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 intéressants, mais aussi des gens trouver des emplois dans le secteur artisanal, et puis aussi, je dirais, l'ouverture d'esprit, la possibilité de se trouver bien dans notre société. Et puis aussi, la possibilité à travers les 60 bénévoles qui viennent nous aider sur la cité, en particulier par l'accompagnement scolaire, eh bien que les jeunes des autres quartiers, des quartiers réputés beaux, riches, etc., puissent découvrir aussi cette diversité qui est la diversité de la France aujourd'hui, et puissent non seulement donner une aide immédiate, mais aussi être transformés dans leur vision de l'autre, et peut-être que 20 ans après, étant responsables des ressources humaines, ils embaucheront plus facilement des gens qui viennent d'univers un peu différents et qui pourtant sont pour la plupart français, vivent dans notre pays et ont finalement notre humanité en commun. Et je pense que c'est ça la découverte majeure qu'on peut faire quand on vit ici, c'est que nous sommes tous des êtres humains et dans la théologie chrétienne, nous sommes tous à l'image de Dieu et donc porteurs de l'Esprit Saint qui ne demande qu'à s'exprimer dans la rencontre.
Henri Quinson, cette fraternité Saint-Paul, que fait-elle concrètement? Est-ce que vous avez des exemples, des actions que vous menez au cœur de ces cités, de cette cité des quartiers nord de Marseille?
Le plus important, c'est vraiment de venir habiter avec les gens. Donc le choix du lieu, c'est extrêmement important parce que c'est sur cette base que les personnes vont vous accueillir, puisque quand nous sommes arrivés, c'était nous les étrangers. Et une fois que nous sommes accueillis, eh bien c'est un échange, c'est une rencontre. Et donc les gens nous ont demandé différentes choses, voyant qu'on savait lire et écrire, eh bien on nous a eu des demandes pour les adultes d'être un peu les écrivains publics du quartier, nous occuper un certain nombre de papiers, rééchelonnement de dettes auprès de la Banque de France, des problèmes administratifs divers et variés. Et puis pour les jeunes, très rapidement, on a eu des demandes pour faire du soutien scolaire. Et donc chez nous, nous recevons à peu près 80 personnes, 3 soirs dans la semaine, pour que les jeunes puissent réussir à l'école, sachant que souvent leurs familles ne maîtrisent pas très bien notre langue parce qu'ils viennent d'arriver. Donc c'est important qu'ils aient un cadre un peu familial dans le quartier, dans lequel on fait venir à la fois des lycéens, des étudiants, des jeunes professionnels, pour qu'ils puissent trouver le petit complément qui les aide à s'en sortir. Donc ça c'est très important, c'est très concret, et c'est sur cette base qui est non confessionnelle que nous pouvons établir des liens constructifs avec nos voisins qui sont pas nécessairement de notre confession religieuse, puisqu'en fait la plupart de nos voisins sont musulmans, et donc dans ce respect mutuel qui est basé donc sur ce partage de vie, et à travers ces actions très concrètes, ça nous permet de vivre une forme de communion qui va au-delà de nos églises, de nos mosquées. Et ça, c'est très très important aussi, parce que dans ce microcosme se jouent des tendances de fond du macrocosme, de la planète, qui de plus en plus est interconnectée, et donc toutes ces questions de rapport entre les différentes communautés religieuses, de rapport aussi entre le Nord et le Sud, puisque beaucoup de nos voisins viennent d'Algérie, de Tunisie, des Comores, bref, des pays plus pauvres que la France, en tout cas pour la masse des gens qui y habitent, eh bien c'est important qu'on puisse arriver à vivre dans ce petit quartier des réalités qui sont les grands défis de notre planète pour le 21e siècle.
Puisque c'est dans l'air du temps, Henri Quinson, est-ce que vous êtes inquiet pour l'Église dans la crise de confiance qui la secoue actuellement et dans ce fossé qui semble se creuser entre le peuple et sa hiérarchie?
Je crois que l'Esprit Saint souffle où il veut, et il souffle toujours dans la direction de la vie, du renouvellement, de la prise de risque, de la vie concrète, et donc tous ceux qui veulent faire l'expérience du Christ incarné sont porteurs de l'espérance. Après, c'est à chacun d'en tirer toutes les conclusions. Parfois, il faut peut-être faire la preuve par l'absurde pour arriver à la conclusion que, voilà, les questions posées ne sont peut-être pas forcément les plus importantes, que les questions parfois importantes sont peut-être posées en des termes qui ne sont pas très justes. Et donc, je crois que la réponse vient par la vie. De toute façon, les grandes traditions religieuses, il y en a très très peu qui ont survécu au siècle. Et les églises, même les églises chrétiennes, sont soumises à cette réalité. Et c'est tant mieux que une tradition religieuse doit rester pertinente. Elle doit rester pertinente dans son langage sur la divinité, sur Dieu, qui est Dieu pour nous. Et l'évangile est d'une extraordinaire pertinence aujourd'hui, si on veut bien lui donner des mots compréhensibles pour l'homme moderne, et puis par un style de vie. Il faut que le style de vie des uns et des autres soit vraiment inculturé. Il ne suffit pas de dire simplement aux Africains de s'inculturer. Il faut commencer en Europe par être vraiment de ce temps, pas du tout pour s'y adapter. Au contraire, en pleine crise financière, on voit qu'on a tout à offrir à un système qui est mal en point, précisément parce qu'il manque l'évangile. Donc c'est une tâche passionnante. Les apôtres du Christ étaient peu nombreux. Aujourd'hui, il ne faut pas se fier à tous ces chiffres sur combien y a-t-il de chrétiens, de musulmans, etc. Ce qui compte, c'est la saveur évangélique, et j'ai toute confiance qu'elle puisse encore donner beaucoup de fruits.
Henri Quinson, une dernière question, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes perçu, quelles sont vos relations avec la hiérarchie du diocèse de ce département.
Alors moi, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec le cardinal Panafieux, qui était notre évêque ici à Marseille, qui nous a toujours soutenus, compris. D'excellentes relations avec Georges Pontier, son successeur. Et dans notre petite présence en Algérie, d'excellentes relations avec le père Tessier. Donc notre expérience à nous, c'est nos relations avec nos évêques, ont toujours été excellentes. Je pense que dans l'épiscopat français, il y a un certain nombre d'évêques qui sont très... de très grande qualité évangélique et qui ont su d'ailleurs prendre des risques encore récemment. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment matière, même au niveau de la hiérarchie, de construire une église fraternelle, simple. Il suffit de dépoussiérer certaines choses, si on pouvait laisser tomber des titres comme Monseigneur qu'on n'utilise même pas pour s'adresser au président de la République. Des choses aussi simples que ça, déjà si on commençait par ça, je pense qu'il y a des choses qui pourraient aller très très vite. C'est quelque chose qui sera imposé par le fait que l'Église justement est devenue servante et pauvre et que précisément elle retrouvera la simplicité de l'Évangile.
Ça sera le mot de la fin. Retrouvez Henri Quinson cette nuit pour les insomniaques à 1h pour la rediffusion de cette émission. Je rappelle également que Henri Quinson a sorti 2 livres, Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, et également un livre Prier 15 jours avec Christophe Le Breton, moine, poète, martyr à Tibirine. Merci beaucoup Henri Quinson d'avoir accepté notre invitation. Merci à Roman pour avoir réalisé cette émission, à Jean-Louis Baudou pour l'avoir animé avec moi-même, et à Thérèse Chabel pour le contact. Merci.
Merci
Thérèse Chabel pour le contact. Merci. Animé avec moi-même et